potes, venez chez moi, y'a pas papa. Aidez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, litigata, poupou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Christobal, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, où est les papas, où est les Diana, où est les Charlotte, où est les Didi, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et bonsoir, vous êtes sur Radio Canus en 2.2, il est 22h et des toutes petites brouettes et c'est la causerie. Bonsoir, bonsoir.
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 Alors, comme d'hab, on va faire un petit tour de table. Qui est présent ce soir? Alors, on a Fab à la technique.
Salut.
Super, bravo. Oh, c'est génial.
On a Jean-Yves au micro
c'est
jaune.
Ça, vous m'avez déjà entendu rire normalement.
Voilà, et puis on a deux invités, Fab. Habitué, tout ça quoi.
Ouais.
Donc on a Clara qui adore dire bonsoir à la radio.
Bonsoir.
Voilà. Et Baba.
Bonsoir.
Alors le micro était coupé.
Je le remets. Ah, ça y est.
Pour une fois que je parle, bonsoir.
Voilà.
Et donc voilà, il fait chaud. On a une température ambiante de 35 degrés. Oui. On est déjà. On est combien, merde 5 On se tient chaud, mais on va essayer de tenir, quoi.
Il fait, ouais. Il fait voilà. Un peu moite dans le studio.
Oui, c'est ouais. Vrai. C'est très moite.
C'est très moite.
Non.
Bon. Alors, bon. C'est, ils sont, comme vous avez pu le comprendre, ils sont en forme, hein, comme ouais. Moi d'ailleurs.
Alors, on est en forme, mais en même temps, on est très fatigué, je crois.
Ouais, ouais c'est un peu 50-50. Mi-figue, mi-raisin. Et du coup, on est.
Les expressions de ma grand-mère, tome 1, volume 2, page 4.
J'adore.
Et ben, je vais quand même rappeler qu'il y a un blog
ah ouais,
à l'émission. Et donc voilà, donc vous le trouvez en oui, c'est la porte ouverte qui fait l'écho. En fait, il faut fermer la porte. Ouais. Ça va aller beaucoup mieux. Amis auditeurs, c'est rien. Au bout d'un an et demi, on oublie toujours de fermer les portes.
Bah, c'était pour se faire l'air un peu, non
voilà. Et du coup, oui, je disais, donc il y a un blog. Donc vous allez sur radiocanu.org. Vous allez dans sur le côté, il y a marqué blog des émissions. Non, c'est en haut, ça, pardon. Et après, vous trouverez la causerie ou alors vous tapez blogs.radiocanu.org/la causerie et vous nous trouvez aussi ou dans vos moteurs de recherche. Voilà. Sinon, il y a un mail aussi, il paraît.
C'est ça.
Et c'est quoi,
bah,
le mets?
C'est la causerie canu, tout attaché. Faut pas le rajouter, en fait, tout attaché. Bon, je recommence. C'est lacauseriecanu@gmail.com. Envoyez vos messages now.
Voilà. Et tout va bien. Ça va être une émission un peu explosive ce soir.
Je crois.
Et sinon, sinon, vous pouvez nous trouver aussi sur Face de Plouc. Voilà.
Ouais.
La causerie. Et j'en profite pour dire qu'il y a aussi une page qui s'appelle Soutenez Radio Canu sur Face de Book.
Oui.
Et que vous pouvez aussi retrouver sur radiocanu.org, l'appel aux dons. Alors, amis auditeurs, on a un léger problème. Voilà, c'est que bon, nous, c'est la causerie. Vous savez quand même que c'est une des émissions phares de Radio Canu. On se la pète à mort. Et il paraît qu'en fait, il y a assez peu de dons qui sont venus de nos auditeurs. Et ça, quand même, on se dit.
Genre, on les trace, quoi. Donc, on dénonce Big Brother et on arrive à tracer.
Non, mais
genre,
on a tous les noms. Nous, on sait qui nous écoute,
où ils se trouvent. Les adresses et tout.
Et voilà. Et donc, ce qu'on aimerait, là, ce soir, c'est on pourrait avoir 20 dons qui viendrait d'auditeurs de la cause.
Non, mais
par exemple.
Alors 20 ou pas, ou si vous avez envie ou pas, et ça peut être de 5€ à autant que vous voulez, mais enfin, tout le monde peut participer, quoi. Il ne s'agit pas de s'adresser qu'à ceux qui ont plein d'argent, à eux aussi, on est bien d'accord, mais à tout le monde, quoi, et que, enfin, voilà.
Et puis si vous avez quelqu'un dans votre famille mourant et que vous n'aimez pas, on peut aller le soudoyer
pour récupérer vieille tante Hilda
pour récupérer la somme. Non, c'est horrible ce que je dis, c'est pour plaisanter. Mais oubliez pas de soutenir Radio Canu. Voilà.
Grave.
Et on pourra rappeler l'adresse, mais on le fera en fin d'émission parce que je l'ai pas sous les yeux.
Ouais.
Eh ben Jean-Yves, c'est à toi.
C'est ça. Alors, attention, ça va être sport, hein. Très très sport, parce que là je suis un peu à l'ouest. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors ce soir, je voulais vous présenter le livre La Salopétique, ou le guide pratique pour les relations libres et sereines, aux éditions Tabou, et c'est écrit par Dozy Easton et Janet W. Hardy. Enfin voilà, hein. Je...
M'avais dit le D'abord... bonheur, Hardy.
Non.
Voilà,
non.
Ça c'est fait.
Ok, super, c'est très bien, merci. Alors, je vais vous passer le truc sur les auteurs, parce qu'en fait, d'habitude je le fais, mais j'ai tellement de trucs à vous partager avec vous que voilà.
Si on cherche, on trouvera.
Ouais, elles sont auteurs, elles sont essayistes. Il y en a une qui fait aussi des thérapies, il y en a une autre qui est un peu plus connue dans les milieux SM, etc. Enfin, c'est chercher sur elles, mais de toute façon, une fois que je vous aurai lu tous les extraits, vous aurez que envie de l'acheter.
Bah oui.
Donc vous saurez exactement qui sont ces femmes. Voilà. Alors, ça impose. Hein.
Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, il vient juste de sortir un cahier.
Non, voilà. Absolument pas. C'était juste votre silence qui était merveilleux, en fait. Et donc, commencer par le livre. Pourquoi, en fait, avoir choisi ce titre de La Salope Éthique? Parce que, quand même, la salope, tout ça. Alors, je vais vous lire à chaque fois des extraits du bouquin, parce que j'espère que ça vous donnera l'envie aussi. Alors, en général, le mot salope est une insulte visant à couvrir d'opprobre une femme à la sexualité jugée débridée, vorace et honteuse. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le terme étalon, qui décrit un homme sexuellement très actif, est plutôt positif. Il reçoit l'approbation générale et suscite même l'envie. De même, la morale chez un homme fait référence à son honnêteté, sa loyauté, son intégrité, ainsi qu'à d'autres principes nobles et élevés. Par contre, posez des questions sur la morale d'une femme et on vous dira sûrement avec qui elle couche et comment. Nous ne sommes pas d'accord. Nous revendiquons la réappropriation du terme salope. Nous voulons renverser ce concept injurieux en le réinvestissant de manière positive et même affectueuse. Ma petite salope. C'est moi qui l'ai rajouté. Quel que soit notre genre, nous sommes fiers d'être des salopes. Nous célébrons la sexualité en partant du principe radical que le sexe fait du bien et que le plaisir est bon pour nous. Les salopes peuvent choisir les plaisirs solitaires ou décider de s'envoyer en l'air avec le 10e régiment d'infanterie au grand complet. Elles peuvent être hétérosexuelles, homo, bi, militantes radicales ou petites bourgeoises pépères. En tant que salopes, fiers et fiers de l'être, nous sommes convaincus que le sexe, l'amour et l'érotisme possèdent une énergie fondamentale. Ce sont des forces dotées du pouvoir d'améliorer le bien-être, de renforcer les liens entre les gens, d'ouvrir la conscience et même de changer le monde. De plus, nous sommes convaincus que chaque relation sexuelle basée sur le consensus en est capable. Et que toute voie vers l'érotisme choisi en son âme et conscience peut avoir une vertu positive et créatrice au niveau individuel et collectif. On peut dire que les salopes partagent leur sexualité comme les philanthropes décident de faire don de leur argent. Parce qu'ils ont une fortune immense à partager, parce que ça les rend heureux, parce que le partage rend le monde meilleur. D'ailleurs, nous allons vous confier un secret. Bien souvent, les salopes se rendent compte que plus elles donnent d'amour, plus elles en reçoivent en retour. C'est un miracle digne de la multiplication des pains. Et dans quelle gourmandise et générosité et dans lesquelles gourmandise et générosité vont de pair, imaginez vivre avec une telle abondance sexuelle. Voilà. Déjà, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, parce que le titre, il est un peu, tu vois, salopétique.
Provocateur.
Et, ouais, provocateur, et je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, cette réappropriation. Ça me rappelle un peu, les transpédéguines, parce que c'est au départ des insultes, et qu'au final, on se réapproprie pour mieux, à la rigueur, apprendre à déconstruire toutes ces choses-là.
C'est un peu sur la base du mouvement queer aussi.
Ouais. Ouais. C'est un peu ça. Merci. Et justement, en fait, c'est en préparant la chronique, je me suis dit, c'est pas toi qui en avais parlé quand t'avais fait une chronique sur le polyamour, Fab ?
Oui, parce qu'en fait, c'est un peu la bible des polyamoureux, la salope éthique. Et j'avais promis de le lire avant, et je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, donc du coup, oui, c'est un peu... Enfin, moi, souvent, quand j'avais fait sur les polyamoureux, c'était revenu, lisez la salope éthique, ça explique beaucoup de choses sur le polyamour et sur l'amour de soi.
Voilà. Okay. Alors justement après, c'est ce que je me suis dit, c'est pourquoi ce livre ? Parce que nous sommes toutes et tous des salopes ? Non. L'idée est que tout s'interroge, y compris le couple, l'amour, parce qu'on vit toutes et tous dans une société qui sacralise beaucoup de choses, y compris les relations de couple et l'amour. Et les relations de couple et l'amour. Pardon, je répète parce que j'ai eu un petit truc.
Alors je suis pour rien, c'est ça grésille ce soir, pardon, désolé.
Ce livre, par 22 chapitres de petits... Et il y a aussi des petits exercices, en fait, ça c'est très à l'américaine, je trouve. Ou alors je me trompe, mais c'est très à l'américaine. Une fois que tu as fini un chapitre, tu mets en application tout ce que tu as appris.
Comme un petit cahier de vacances.
Ouais,
quoi,
c'est un peu ça, c'est ça. Un peu ça. Bon, après, c'est toujours intéressant parce que même les exercices, au final, ils vous amènent à vous interroger, quoi. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les faire en couple, même pas même de les faire. Et en fait, ça nous amène toujours à nous interroger, au fait, c'est ça, sur nous-mêmes. Et sur le rapport aussi qu'on a avec le sexe et la fidélité. Et alors, sur la fidélité, ben justement, je voulais vous lire un petit truc. C'est plus court qu'avant. Alors, sur la fidélité, vous entendrez, vous lirez plutôt, ce mot vous étonne dans ce contexte. Sachez que même la plus grande des salopes est fidèle. Comme dirait Cole Porter, je te serai toujours fidèle, bébé, à ma façon. Selon notre ami Richard, la plupart des gens définissent la fidélité comme le fait de ne coucher qu'avec une seule et même personne. Selon moi, la fidélité n'a pas grand-chose à voir avec qui on couche. Être fidèle signifie tenir nos engagements, respecter nos amis, nos partenaires et se soucier de leur bien-être autant que du nôtre. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant parce que la fidélité, c'est souvent un truc quand même. C'est un des socles en fait du couple, quoi. La fidélité, et pour ceux qui pratiquent la religion, c'est on se
prête serment.
Merci.
De fidélité,
oui, c'est ça, de fidélité, ça, ouais. Etc. Pardon, je me fais attaquer par un moustique. Ça c'est sport ce soir. Et donc voilà. Enfin, je trouvais que là aussi, ça interroge. La fidélité, comme dit, pour ceux qui ont été un peu dans des milieux pas forcément les plus ouverts, enfin, on vous vend toujours l'amour avec cette fidélité-là. Et effectivement, je trouve que leur définition est très intéressante. Et après, ça nous parle aussi de l'éducation des enfants, autant sur la place de la sexualité, enfin sur la sexualité même, leur parler de sexualité. Enfin voilà, c'est hyper intéressant parce que c'est justement, encore une fois, est-ce que les enfants les excluent de ce genre de... Ou est-ce qu'on a le droit de vivre en communauté ou en troupe ou enfin comme on veut? Et justement, enfin ce qu'elle dit, c'est que les enfants, en fait, il faut les emmener avec et leur parler de tout ça, parce que c'est aussi leur ouvrir des fenêtres sur une autre manière d'approcher le couple, sur une autre manière de vivre l'amour. Et encore, le couple, c'est une erreur que je viens de dire sur l'amour, en tout cas. Et je rame un peu. C'est aussi sur la jalousie aussi, c'est hyper intéressant parce que c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il faut pas la nier. Parce qu'elle pense que ça fait partie de l'être humain et je pense qu'elle n'a pas foncièrement tort. Mais qu'en même temps. Ouais, mais si vous faites des signes comme ça, moi je
pardon.
Peux pas.
Non, c'est juste qu'il y a un badge qui existe et qui parlait de ça et je vais devoir percuter d'où ça venait. Pardon.
Ok. Et donc sur la jalousie, effectivement, c'est qu'il ne faut pas la nier et qu'en même temps, il faut pas la laisser vaincre non plus, quoi, parce que la jalousie, c'est un peu la déraison, quoi. C'est des peurs au final, c'est des émotions. Et elle disait, il faut essayer d'apprendre à les maîtriser et aussi pour lutter contre ces jalousies, pour qu'elles ne prennent pas le dessus. C'est aussi désamorcer le truc. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je...
Et du coup, elle donne des outils pour désamorcer la jalousie, ouais. pour arriver à comment dire. Parce qu'on dit que la jalousie, c'est le sentiment le pire qui existe, vu que c'est celui qui pousse au meurtre. Vous savez, c'est le fameux truc qui sert d'excuse bidon dans pas mal de cas.
C'est vrai.
Le crime passionnel, tu veux dire?
Oui, j'ai dit bidon, mais en fait, je le pense un peu. Voilà, mais du coup, oui, c'est... Voilà, je me dis, tiens, comment elle pose le truc par rapport à ce sentiment-là ?
Eh ben, j'ai un petit passage. Non, mais franchement, on est trop raccord, c'est super. Alors, la jalousie n'est pas un démon. Nous ne pouvons donc pas vous dire comment la chasser ou l'exorciser. Elle a beau être éventuellement votre démon intérieur, il ne s'agit pas d'une tumeur cancéreuse que l'on peut retirer. Elle fait partie de vous, c'est une façon d'exprimer vos peurs et votre chagrin. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est la façon dont vous vivez la jalousie. Vous pouvez apprendre à la gérer comme vous le feriez avec n'importe quelle autre émotion. Y travailler jusqu'à ce qu'elle cesse de vous dominer. Elle n'en deviendra pas forcément un sentiment agréable, mais au moins elle sera supportable. Elle passera en vous comme une légère perturbation, une pluie chaude d'été plutôt qu'un typhon dévastateur.
Ouais, c'est intéressant comme
c'est
dit.
Ouais, moi
c'est
que...
beau comme métaphore.
Bah ouais, moi je trouve que c'est hyper intéressant.
Moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'encore une fois, elle remet ça au cœur de ce que c'est-à-dire que la jalousie n'est qu'une émotion.
Oui.
Donc comme toute émotion, on peut accepter ou pas d'être dominé par elle ou d'arriver à la relativiser un minimum et de dire bon attends, OK, je la ressens mais je peux la mettre de côté ou je peux respirer un grand coup et me dire allez voilà je passe à côté. Je rappelle que j'ai pas lu le livre parce que après ça pourrait donner l'impression que Georges fait ouais c'est vachement bien et tout, on vend le bouquin, mais je l'ai pas du tout lu et ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que moi j'avais vu ça quand j'avais préparé les choses sur le polyamour, même les polyamoureux avaient peur de justement ce que je disais, de donner leur nom ou de venir à la radio ou même un prénom, de peur que quelqu'un arrive à dire ah là là tu vis pas dans la norme. Et souvent ce qui revenait c'est ouais mais c'est parce que les gens ils comprennent pas comment on gère la jalousie. Mm-hmm. Et justement c'est intéressant parce qu'elles en parlent assez ouvertement et c'est finalement bien de pas l'écarter de la problématique quoi.
Oui. Et alors justement autour de la jalousie, après elle donne aussi des techniques de dialogue parce qu'au final c'est, enfin on en arrive toujours au même truc, c'est que c'est le dialogue au final qui fait avancer. Et sur la technique, en fait, elle parle d'un premier exemple, c'est souvent parler au jeu, les messages en jeu. Je cite le livre. Avant de débattre du pour ou du contre d'une solution, une bonne communication repose sur la capacité à identifier ses sentiments, de savoir les exprimer et de sentir que son partenaire écoute et comprend ce qu'on lui dit, qu'il soit d'accord ou non. Les émotions ne sont pas des opinions, ce sont des faits, des vérités sur ce que les gens ressentent. Essayez de commencer vos phrases par « je me sens » ou « je suis ». Il y a une différence entre dire « tu me rends triste » et « je suis triste ». Contrairement aux phrases débutant par « tu » et surtout par « tu fais toujours ci ou ça », celles qui commencent par « je » ne contiennent aucune accusation. C'est un simple exposé de faits concernant nos sentiments. Si votre partenaire ne se sent pas agressé et n'a pas besoin de se défendre, il ou elle sera libre de vous écouter vraiment. C'est peut-être complètement idiot, mais enfin après, on va pas rentrer dans l'intime, mais je veux dire, on a, je pense, tous eu peut-être des fois des réactions qui sont un peu... Non, je suis peut-être le seul, mais c'est pas grave.
Qui sont un peu quoi, parce que t'as pas fini ta phrase.
Oui, qui sont un peu...
Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans...
Démesurés.
Démesurés, c'est ça. Non, mais ouais, c'est exactement ça. Parce qu'au final, la peur, ça appelle toujours à... Enfin, je sais pas, à cacher tout ça. Et on va souvent déporter nos propres sentiments, justement, de jalousie, etc. sur l'autre, quoi. C'est à cause de l'autre. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de petite technique. Alors, moi, c'est peut-être que toutes celles et ceux qui écoutaient la causerie, vous en avez peut-être rien à foutre et vous savez déjà tout comment gérer les relations humaines.
Ça m'étonnerait grandement.
Bah, ils sont humains, quoi. Donc, ça m'étonnerait aussi, hein. Mais je me dis, on sait jamais. On a peut-être un public hors norme.
Mais
tu vois.
Ouais.
On a peut-être plus de public.
On les a perdus. Je suis tellement chiant à faire mes chroniques. Alors, je vous promets, même pas 10 minutes encore et après, vous pouvez revenir. Et alors, il y a aussi des exemples de listes. Alors, ça, c'est plus pour se mettre en accord dans les relations libres, parce que c'est ce qui est important dans la relation libre, c'est que jamais personne ne se sente lésé. C'est-à-dire que personne ne doit être écrasé au profit de la vie sentimentale et sexuelle de l'autre.
Oui, c'est ce qu'elle disait au début, c'est un partage, c'est pas un égoïsme à deux, quoi.
C'est exactement ça. Moi, vous m'étonnez toujours quand même.
Mais si on est réveillés,
non, mais parce que vous m'écoutez aussi.
On fait attention.
Même moi, je m'écoute pas. Alors, justement, sur les types d'accords, c'est vachement intéressant. Et ça va certainement sembler à certaines personnes un peu froid, mais c'est, on décide des choses comme ça. Et en même temps, moi, je crois que, encore une fois, si le couple il doit arriver à progresser et avancer dans le temps, je pense qu'il n'y a que le dialogue, en fait. Et vu qu'on est deux individus, il y a forcément deux approches des choses. Alors, sur les types d'accords, c'est... nous utilisons toujours des préservatifs et d'autres protections lors des échanges de fluides corporels. Ou encore un autre exemple, c'est nous passerons toutes nos nuits ensemble, sauf quand on est en voyage. Il y en a d'autres, hein, je peux vous en citer une autre, c'est ne me dis rien sur tes amants.
Mmh. Oui, c'est des règles de vie.
C'est ça, des règles de vie qu'on établit à deux ou à trois. Ou...
Et qui permettent aussi de gérer la fameuse jalousie, parce que du coup... On fixe un petit peu les limites de ce qu'on veut savoir, voilà. Pas savoir, de la confiance qu'on se donne, voilà.
C'est exactement ça. Mais c'est génial. Wow. J'espère que de l'autre côté, ils comprennent aussi bien.
Il n'y a pas de raison qu'ils comprennent pas.
Et alors, après, il y a aussi, le livre, il aborde aussi la rupture, et le sexe et le plaisir. Et il y a un truc que je voulais vous lire aussi, et j'espère que ça ne sera pas trop long, c'est sur le rôle de genre, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que justement, ce livre, il vous emmène foncièrement à vous interroger. Et alors, sur le rôle de genre, je vais essayer de pas tout lire parce que sinon, ça sera vraiment trop long. Si vous voulez vraiment être libre d'explorer votre sexualité dans sa totalité, vous devez réfléchir à ce qu'on vous a inculqué quant à la leçon dont les hommes et les femmes sont censés se comporter pendant l'amour. Nous avons appris qu'il est naturel pour un homme d'être sexuellement agressif et pour les femmes d'en être les réceptrices passives. Les auteurs de ce livre aiment ces deux rôles, certes, mais bien d'autres choses encore. Chaque être humain a ses propres préférences et en ce qui concerne le plaisir. Puisque la société interdit aux hommes de recevoir, c'est-à-dire d'être réceptifs, on leur interdit par la même occasion toute excitation préliminaire et ils n'ont le droit de demander aucune stimulation. Les hommes ne sont pas censés en avoir besoin, encore moins en avoir envie. Moralité. Quand un homme n'est pas automatiquement excité alors que sa partenaire l'est, il finira sûrement par penser qu'il est impuissant. Pourtant, ce qu'il lui faut, c'est peut-être tout simplement qu'on lui mordit le lobe de l'oreille. Quant aux femmes, consignées à la passivité, elles peuvent tomber dans le piège de « la belle au bois dormant ». Un jour, mon prince viendra, me prendra et il jouira. Et moi aussi, car les héros de contes de fées jouissent toujours en même temps, c'est bien connu. Mais dans la vraie vie, une femme qui a le droit d'assumer le rôle actif peut commencer à réfléchir à ce qui la fait vraiment mouiller. Actif et réceptif sont des rôles très agréables s'ils ne dépendent pas du genre. Pensez au sexe oral. Le 69 n'est-il pas le meilleur exemple du plaisir intense qui existe à alterner les rôles ? Lorsqu'on se concentre sur le rôle actif. On peut être de bons amants et être excité par le plaisir de notre partenaire. Quand c'est notre tour de recevoir, pourquoi ne pas tout simplement apprécier le cadeau qui nous est fait, sans parler de la liberté de répondre aux coups de rein de notre partenaire par les nôtres, de hurler ou d'exprimer notre volupté à l'envi. Nous rêvons d'un monde où chaque être humain aura conscience non seulement du plaisir fabuleux qu'il est capable de donner en étant actif, mais aussi de tout ce qu'il offre à ses partenaires quand il reçoit. C'est joli, hein.
Ouais,
non, et en plus, je trouve que ce petit morceau-là de lecture, il aborde vraiment quelque chose qui, pour moi, peut-être que je me trompe, hein, j'attends vos avis, est fondamental, en fait, je pense, dans cette déconstruction des relations, en fait, entre hommes et femmes, qui peuvent aussi se passer entre femmes et femmes, je pense, et entre mecs et mecs. Mais c'est toujours ce côté, on est forcément passif ou actif. Et d'ailleurs, chez les homos, c'est souvent ça quand même. C'est soit passif, soit t'es actif. Mmh. Genre, on peut pas aimer les deux, quoi. Genre, t'es...
On ne peut pas ne pas aimer être pénétré ou être pénétré. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait une normation dans la sexualité.
C'est ça.
Et je trouve bien de dire que quand on sort des normes, on est forcément mieux que quand on y reste enfermé dans des carcans... que des normes, qu'elles soient sexuelles, familiales ou autres, et on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais du coup, voilà, enfin c'est intéressant de voir justement le fait d'interroger à deux, parce que ou à trois, ou à quatre, ou à douze, parce que le livre est pas limitatif, si j'ai bien compris.
Ah, clairement pas. Hein. Clairement pas.
Donc du coup, c'est bien quoi, de se dire que il faut s'interroger, y compris même dans la sexualité, oui. À quel niveau on se plie à des normes préétablies, et puis qui sont sclérosantes quoi.
Clairement. Et donc après, alors il y a vraiment, enfin moi ce bouquin je le trouve génial parce qu'il vous oblige à justement à vous interroger vous-même si vous pensez lire ce petit livre en ne pensant à rien d'autre qu'à la lecture, en fait, c'est pas possible. Enfin, je pense sincèrement que c'est pas possible.
Et si, si moi, qui suis de l'autre côté du poste, ouais, je suis en couple fidèle, que pour moi, la monogamie est la seule façon de vivre et que voilà, alors du coup, j'ai pas besoin de lire le livre.
Ben si, parce que regarde, tu peux être dans une monogamie complète et pourtant rester dans des rôles prédéfinis au final. Donc, je crois que foncièrement, ce bouquin, et elles le disent dans le livre, il ne s'agit pas d'ériger une nouvelle norme, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont polyamoureuses, elles sont dans des relations libres et sereines, je pense, en tout cas, je leur souhaite. Mais après, elles disent, si vous décidez que votre vie, c'est de la monogamie, tant mieux. Enfin, tant mieux pour vous, si c'est votre choix.
Mais c'est décidé à deux, du coup.
Mais voilà, c'est ça le truc. C'est, elles le disent, si vous êtes monogame, est-ce que vous êtes interrogé sur le fait d'être monogame? Et là, je pense que la première question, elle est déjà très intéressante, tu vois. Et donc voilà, enfin, comme moi je me suis dit, il y en a certains qui ont la Bible, le Coran, la Torah, etc. Et ben moi, j'ai la salopétique, je la brandis haut et fier. Bref, ben.
Ce serait drôle que tu fasses ça dans l'Assemblée nationale.
C'est ça, t'as bouteille avec son truc et moi je suis de l'autre côté. Non, moi c'est la salopétique. Enfin bon, tu vois, un truc comme ça. Et alors, ce que je voulais juste encore, c'est à la fin aussi, il y a un petit dico, un petit lexique en fait, avec les définitions de mots, le polyamour, etc., les relations à trois, les relations. C'est vraiment génial. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire? Eh bien, vous rappelez la boîte d'édition, c'est Tabou. Et le bouquin, il coûte 17 euros. Mais après, je me dis, si vous vous mettez à plusieurs, vous pouvez vous en acheter un et le faire tourner. Enfin, bon, bref.
Il demandait dans les médiathèques aussi pour qu'il soit obligé de l'acheter.
Mais grave, ça, ce serait génial. Ça, ce serait génial qu'un livre comme ça soit dans les médiathèques. Ce serait juste énorme. Après, il y aura tous les cathos, tous les réacs. Qui dirait, enfin, vous voyez, dans les bibliothèques de l'État, de la République, on diffuse une idéologie de liberté. Ah ouais, c'est ça. voilà. Ceux qui n'aiment pas ça n'aiment pas la liberté. En tout cas, on a le droit de s'interroger dessus. Franchement, je vous le conseille. Voilà, je me tais. Ah ouais, je me tais.
Musique
maestro. Vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu de 22 à 23. Et là, on vient de s'écouter Mademoiselle avec le titre Freaks. Et je passe direct le témoin. Et après, tu cours
Voilà. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que...
un témoin, ça.
Mais non, mais j'ai compris, c'est ça le pire, mon Dieu. Que se passe-t-il?
Je ne sais pas. Je passe donc le témoin à Emma qui va nous parler de Lacey Green.
Ouais.
Tu vas nous en dire plus.
Bah ouais, je pense que c'est ça le but.
Ouais.
Alors ce soir, moi, je voulais causer de Lacey Green. Qui est-elle? Que fait-elle? Pourquoi je veux en causer? Donc c'est une Américaine, en fait, qui est née, qui vit à San Francisco. Qui est âgée à peu près de 24 ans. Et en fait, elle, c'est une... alors, comme disent les jeunes, une vlogueuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vlogueuse? C'est un nouveau style de blogueuse. Enfin, c'est une contraction entre les vidéos et les blogueurs qui ont formé le mot vlogueur. Si c'est pas beau, les nouvelles technologies, quoi. Et donc, voilà, c'est tout. C'est toute la nouvelle génération de personnes qui ont des chaînes, vous savez, généralement sur YouTube, et qui font des vidéos. Alors, ça concerne un peu tout, hein, pour les vlogueurs. C'est aussi bien des vidéos humoristiques que sur les jeux vidéo. Et pour Lacey Green, en fait, c'est des vidéos qui tournent autour du genre et de la sexualité. Donc, je vais revenir un peu plus là-dessus. Sinon, alors, c'est une nénette qui a fait son parcours à l'université de Berkeley. Et en fait, elle n'est pas forcément, enfin, elle n'a pas fait d'études sur le genre ou sur les femmes, ce qui est assez étonnant dans son parcours. Elle a fait, enfin, elle a fait des études de sciences de l'éducation et de droit. Donc voilà, il y a le petit côté un peu éducatif qui ressort. Mais sinon, en fait, ce qui est étonnant dans son parcours, c'est qu'elle vient d'une famille, elle explique, qui est modeste, une famille plutôt traditionnelle même, où la sexualité a toujours été un tabou. Et c'est ça qui est marrant, c'est que des moments où on se dit, enfin, on s'attend toujours à avoir des parcours assez extraordinaires, surtout quand c'est, enfin, voilà, quand c'est des jeunes d'entre 20 et 30 ans, on se dit qu'ils sont nés dans des familles soit avec des mères super féministes et tout ça, des familles militantes. Alors là, pas du tout. Et donc elle a débuté en fait ses vidéos sur YouTube à peu près en 2010, donc maintenant il y a 4 ans de ça. À l'époque, je crois qu'elle avait même pas une vingtaine d'années. Et en fait, ce qu'elle explique justement, c'est que pour elle, elle avait remarqué que le sexe dans sa famille, dans son entourage, et même en fait dans son groupe d'amis, même si c'était l'université de Berkeley, hein, c'est quand même une université, c'est en Californie, c'est plutôt cool, machin, et même en fait dans son cercle d'amis, tout ce qui était sexualité basique, voilà, ça restait correct, mais dès qu'on entrait plus justement dans la notion de plaisir solitaire, tout d'un coup, c'était soit jugé, soit ça restait un tabou. Et elle, en fait, c'est ce qui lui a donné envie de faire des vidéos. Et en fait, ce qui est super intéressant chez cette fille, c'est que c'est une fille de terrain. Alors, je m'explique pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, elle a été conseillère aussi dans des centres pour abus et pour les violences familiales. Et aussi, ouais, enfin... Et du coup, enfin, dans des sortes de planning familiaux, mais du coup, outre-Atlantique. Alors voilà, des centres pour les femmes et pour leur sexualité. Et donc, en fait, ces vidéos sont pas du tout théoriques. C'est-à-dire que, voilà, elle va pas faire... Enfin, elle fait pas vraiment d'appel à des notions de féminisme et tout ça qui seraient théoriques sur le genre. C'est vraiment, elle va expliquer, elle, son ressenti. Et en fait, c'est des vidéos, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais un peu grand public. C'est-à-dire que c'est très pédagogique. Et en fait, elle va employer vraiment des mots, des termes pour expliquer, on va dire, à tout le monde.
C'est un peu de la vulgarisation.
Ouais, c'est un peu de la vulgarisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait justement des études en genre et sur les femmes. Et c'est ce que je reproche des fois à certaines écrivaines ou même certains écrivains qui vont partir dans des théories, des moments sur le genre, sur le sexisme. Et voilà, qui sont quand même assez compliqués. Et là, pas du tout. Et alors, ces thèmes de prédilection, en fait, c'est surtout la confiance en soi, les mythes à propos de la sexualité. Alors, elle déconstruit énormément de choses. Ça part en fait vraiment du plaisir féminin, des orgasmes multiples. Elle a fait une vidéo sur la pansexualité, par exemple. Mmh. Et en fait, son thème, alors, c'est elle qui en parle, c'est la notion de sexe positif. C'est quelque chose en fait qu'on a, moi je trouve qu'on n'entend pas souvent parler, ou en tout cas on le dénomine pas comme ça, et ça revient un peu à ce que disait Jean-Yves en fait, c'est vraiment toujours se poser la question de son plaisir personnel, et elle c'est quelque chose qui revient dans toutes ses vidéos, c'est avant de penser aux autres, penser à soi, et elle, elle le dit, une de ses premières vidéos d'ailleurs c'est... Le titre, je ne l'ai plus vraiment, mais en gros, c'est vraiment « Apprenez à vous aimer », c'est vraiment ça. Et elle explique que voilà, qu'elle, donc elle parle aussi bien de la confiance, mais aussi de l'image de soi, que ce soit sur son corps, mais aussi que ce soit son image un peu mentale, enfin, la représentation de soi-même. Elle dit qu'elle, voilà, c'est une personne complexée, et en fait, elle donne quelques tips, enfin, quelques conseils, pas pour vraiment, enfin, elle est pas là pour faire de la psychologie,
oui, c'est,
hein, c'est pas ça et c'est pas du tout son but. C'est plutôt elle vraiment son message, c'est apprenez à vous aimer avant d'essayer d'apprendre à entre guillemets aimer les autres. Et c'est pareil dans la sexualité quand elle en parle, c'est vraiment déjà mais apprenez à découvrir votre corps avant de demander entre guillemets à quelqu'un d'autre de le découvrir. Mmh. Et c'est vraiment en fait ce qui est intéressant dans ça, c'est vraiment une réappropriation de son corps et de ses sexualités. Et en fait, elle déconstruit vraiment énormément de choses. Et c'est vrai que elle le reconnaît elle-même, mais la majorité de son public est essentiellement féminin. Mais il y a quand même aussi, enfin, une petite partie de son public qui est masculin et qui apprécie de voir certaines choses. Enfin, je crois que justement, elle avait fait une vidéo, sur l'orgasme féminin, et je crois que ça avait atteint des records parce qu'elle pouvait voir, en gros, et elle en parlait, que là, au moins, il y avait un gros public masculin qui était allé voir ça. Et elle communique énormément avec son public. Aussi, je l'ai pas dit, mais elle donne des cours. Elle a donné des cours à l'université. À quelle université ? C'était pas Berkeley ? C'est pas UCLA, une grande université, c'est pas Harvard. Je vais toutes les faire. Bref, elle donne des cours en fait sur la sexualité féminine dans des universités. Enfin, elle se déplace maintenant. Elle donne aussi des cours dans les lycées parce qu'elle remarquait qu'en fait le gros souci, et je pense qu'on a tous vécu ça en France. Je sais pas vous si vous avez eu ça dans. En général, ça commence au lycée, des fois un peu en troisième, si vous avez la chance d'avoir ça. Ces jolis groupes qui sont censés venir vous parler de sexualité et qui vous parlent en fait 90% de la maternité. Vous ouais. savez, la reproduction, parce que la sexualité, c'est ça.
Le fameux diptyque « Tu vas être malade si t'es pas maman ».
Ouais,
c'est soit la maternité, soit les IST.
Exactement, c'est ça.
Il n'y a pas
ça.
De plaisir entre les deux.
C'est
quoi.
Très joli.
Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Et elle a remarqué ça. Et elle disait qu'en fait, le problème, c'est que c'est des groupes, en plus, qui sont censés être, je dis bien censés être laïcs, parce que moi, de mon expérience, la personne n'était pas du tout laïque. Mais bon, passons ça. Et en fait, qu'il y avait une notion de la sexualité, c'était sexualité-reproduction. Et donc, du coup, le plaisir, enfin, n'était jamais abordée. Et elle, du coup, elle a réussi, heureusement, à venir et dans les facs et dans les lycées pour venir parler de sexualité. En plus, c'est une nana, elle vient avec une espèce de donuts pour représenter le vagin. Enfin, voilà, c'est des trucs vraiment... c'est de la déconstruction pure et dure, on va dire.
C'est Homer qui va être content.
Ouais, c'est Homer. Et donc voilà. Et donc, comme je disais, ouais, elle est beaucoup en contact, que ce soit avec des retours d'étudiants et soit aussi des gens qui la contactent via des vidéos YouTube. Et en fait, elle s'est rendue compte que vraiment, mais il y avait des. Je sais pas si on peut appeler ça des stéréotypes, mais des idées préconçues, en tout cas, sur la sexualité qui étaient juste. Elle qui la faisait rire dans un premier temps. Et en fait, dans un second temps, elle se disait, mais c'est pas possible aujourd'hui. D'avoir des idées comme ça, justement, sur l'orgasme féminin. Mais, enfin, des trucs assez hallucinants, quoi. Où des hommes venaient vers elle en disant « Oui, mais j'ai très peur de pas faire jouir ma copine parce que, apparemment, j'ai pas le bon pénis et tout ça. » Enfin, qui se posaient même pas la question de « Est-ce que j'aurais pu... » Enfin, ça revient un peu ce que tu disais tout à l'heure. « Est-ce que il y a pas d'autres moyens, en fait, que la pénétration et tout ça ?» Et donc voilà, et en fait, pour en revenir au personnage de Lexi Gwynne, c'est un truc qui m'a assez choquée, c'est que là, elle a donné une interview il y a pas longtemps, en fait, parce que, en général, elle le dit elle-même, hein, les réactions sont plutôt positives, surtout quand elle se rend dans l'université, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de réactions négatives. Mais elle s'est mise, enfin, elle a commencé à recevoir un peu des messages de personnes. Bon, bien sûr, elle a eu des trucs, des propositions. Si tu veux passer chez moi, parce que comme elle parlait de sexe, du coup, on la voyait comme une experte. Et puis, on la voyait, enfin, c'était limite, du coup.
Une salope.
Ouais, voilà, on va revenir à la salope éthique. Ouais, hein.
Je trouve que ça rejoint vachement le truc, en fait.
C'est un peu ça, et c'est vraiment. Enfin, c'est même pas un peu ça, c'est carrément ça, parce que. Elle s'est fondée, enfin, on lui a fondé une image de personne qui aurait des multiples partenaires et tout ça. Donc, elle a, dans sa vidéo sur la pansexualité, elle explique qu'elle se considère pansexuelle, mais elle déconstruit vraiment le truc. Elle est vraiment, enfin, c'est vraiment poussé. Comme je disais, voilà, elle explique que pour elle, il n'y a pas de genre, que effectivement, ça peut être de l'amour ou de l'attirance, mais voilà, enfin. Et en gros, on lui a construit une image, on lui a dit, voilà, mais alors elle est pansexuelle. Donc, forcément, elle. Bon, elle le dit, hein. Enfin, c'est vraiment les emails qui sont écrits, c'est mot à mot, elle baise avec tout ce qui bouge, il suffit que ça a deux pieds, et encore, même deux jambes et deux mains, et encore, quoi. Qu'elle a des multiples partenaires et tout ça, et elle dit que ça la dérangerait pas, qu'elle est pansexuelle, mais elle n'est pas forcément polyamoureuse, même si elle a eu, en fait, elle explique qu'elle a eu des périodes, bah voilà, entre guillemets, de libertinage. Mais en fait, ce qui la choque plus, outre le fait que ce soit des rumeurs balancées comme ça, c'est vraiment en fait l'association d'images. Et moi je trouve que c'est frappant parce que ça montre encore une fois qu'on peut pas se poser des questions sur sa sexualité, sur son rapport aux autres, sur son genre, même sur l'image de soi, sans qu'on nous attribue quelque chose, en fait, une image, et qui est forcément une image négative. Et encore plus le fait que ce soit une femme, et que, encore une fois, bah non, du coup c'est pas un Don Juan, mais c'est plutôt une salope. Et je trouve que c'est encore plus dénonciateur, en fait, de ce qui se passe. Enfin.
Ouais, en fait, on voit repoindre très vite le patriarcat.
Ouais.
Et le côté. Tout ce qu'une femme pourrait faire comme un homme n'est forcément pas comme un homme. C'est un truc un peu à part où il faut la classifier salope, il faut la classifier, voilà. Mm-hmm. Et ça rejoint le bouquin que tu avais présenté d'ailleurs.
Ouais, She's a slut, ouais, c'est exactement ça, ouais.
Et ce qui est terrible quand même, c'est de se dire qu'elle essaie de faire un boulot, on va dire pédagogique, mm-hmm. je mets des guillemets à ce mot-là parce que ça veut pas dire grand-chose. Bah, disons d'entraide finalement, enfin d'expliquer.
Ouais, de partage. De technique.
Et qu'au final, ce qu'on lui renvoie, c'est d'images. C'est toujours la faute à Eve, comme je le dis à chaque fois.
Ouais,
c'est le côté où tu vas pervertir nos esprits, où tu as perverti mon esprit. Du coup, je te vois, je couche avec un cheval. Non, mais c'est quand même un truc délirant, quoi. Ben, je veux dire, on voit quand même le niveau. Enfin, il y a du boulot, quoi.
Ouais, il y a du boulot.
Mais c'est comme tu disais. Enfin, je pense que si c'était un mec, il y aurait jamais eu ce genre de truc, quoi.
Mais il suffit.
Non, mais foncièrement, je pense, quoi. Alors après, peut-être que je suis.
Mais en France, c'est assez drôle parce qu'on a. Pas du tout dans le même genre, mais on a un exemple frappant. C'est quand vous aviez Rocco Siffredi sur un plateau télévisé, tout ce qu'il pouvait dire était parole d'évangile. Oui. Et c'était merveilleux, c'était un homme, il avait une grosse bite, et donc il avait le droit de parler comme ça.
Ça flattait voilà. les mecs qui étaient présents, quoi.
Et quand vous aviez, il suffit de prendre une interview de Brigitte Lahaye, oui. Et qui vous expliquera par contre qu'elle a été ostracisée des plateaux pendant des années, et que surtout, fallait pas qu'elle parle de libération sexuelle, parce que c'était une femme et qu'elle avait pas le droit de le faire. Et c'est juste hallucinant de voir que, en fait, c'est encore vrai aujourd'hui, parce qu'elle expliquait, oui. Justement, dans une interview qu'on a vue ensemble, d'ailleurs, Jean-Yves, il y a pas très longtemps, que encore aujourd'hui, il faut qu'elle se justifie, mmh. Du fait d'être une femme, de pouvoir parler de plaisir, de pouvoir parler de féminisme, de pouvoir parler de sexualité.
Donc justement, alors que moi je trouve qu'elle a plutôt des propos, enfin en parlant de Brigitte Lahaye, elle a des propos qui sont plutôt, je pense, pareil, dans une pédagogie, dans un partage de savoir, de connaissances, de plaisir, etc. Alors que Rocco Siffredi, mis à part parler de sa bite de je ne sais combien de centimètres, il apporte rien.
Il apporte rien.
Le seul
rien.
Truc qu'il va te dire, c'est qu'une meuf, il faut la prendre, la retourner, puis la remplir.
Ouais, non, mais carrément,
et
ouais.
C'est juste à gerber, quoi.
Et on voit que dans les médias, c'est représentatif. Et je me dis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a utilisé un outil qui est parallèle, qui est YouTube,
ouais.
Pour essayer de toucher le plus grand nombre. Parce que de toute façon, je pense que ça, elle ne pourrait pas le faire ni à la télé, ni à la radio. Peut-être si sur Radio Canu, mais bon, c'est un peu loin. Mais elle ne pourrait pas le faire n'importe où, quoi. On voit que voilà, tout de suite, il y a ce côté c'est une femme, donc tu peux pas parler de ça. Et les réactions le montrent.
Ouais, c'est une femme, et puis c'est aussi, c'est pas une actrice porno, c'est pas. Enfin, oui, oui. Voilà, il y a aussi ça. Elle le dit elle-même, entre guillemets, elle a pas un physique simple, je déteste dire ça, parce qu'en plus, elle est très jolie. Mais voilà, clairement, c'est pas une.
Oui, elle a un physique commun.
Ouais, commun, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Enfin, c'est. c'est vrai, enfin elle, c'est vraiment son moyen. Enfin, en tout cas, je pense pas que je vous ai donné l'adresse de sa chaîne.
Non, il faut la donner.
Il faut la donner. Et donc, c'est Lacey Green. Donc, c'est L-A-C-I et Green. Alors, G-R-E-E-N. Donc, voilà, si vous tapez, je sais plus comment on tape ça dans YouTube, mais en gros, pour
avec
chercher...
Avec ses doigts.
Ouais, avec les doigts, c'est mieux.
C'est vrai.
Voilà, il doit y avoir un slash quelque part et Lacey Green, ou alors bah, vous tapez sur Google, enfin, googlisez-la, parce qu'il y a des, un lien sur son site internet qui est vachement intéressant. Il y a pas mal d'interviews d'elle. Et voilà, donc il faut y aller.
Yes. Et est-ce que un jour on aura la même chose en France? Bah, est-ce que ça existe déjà? Non, mais
je voulais demander aux auditeurs, parce que moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. En fait, le gros souci en France, c'est que j'ai déjà vu des trucs un peu sur ce ton-là, mais du coup, parce qu'elle, elle arrive à mélanger l'humoristique, mais il y a quand même une grande part de, encore entre guillemets, de pédagogie. J'appellerais plutôt ça de la déconstruction au lieu de la pédagogie, mais en France, tout ce que j'ai vu par rapport au sexe, ce que j'ai vu, ça n'engage que moi, c'est des choses complètement humoristiques, mais en plus de l'humour un peu.
Caudriole, comme on dit.
Ouais, voilà, quoi.
Et là, je pense justement à quelqu'un qu'on avait interviewé. Émilie Jouvel n'a pas fait des vidéos des vidéos un peu de ce style-là, pédagogique, etc., sur le safe sex.
Elle en a fait dans le cadre d'une campagne sur le safe sex, okay.
Mais c'est pas quelque chose
que ce soit son activité.
C'est pas trop son activité. Et puis c'était dans un cadre, ma connaissance, très spécial. C'était en plus en lien avec.
Avec une campagne sur la prévention,
ouais, voilà,
avec YAG et d'autres.
Et c'était vraiment c'était quand même destiné à un public entre filles.
Entre filles.
Entre filles, ouais.
Ok, je n'ai rien dit. Mais donc, ça veut dire que si les auditeurs, ils ont.
S'ils ont des ressources, il n'y a pas de souci.
Filez-les.
Voilà.
Et est-ce que ça embête tout le monde si je dis, tiens, si on mettait de la musique, parce que sinon, j'aurais pas le temps de faire votre
chronique.
Oui, vas-y.
Mets-moi de la musique.
His chance, very yellow white flash. A violent red Christmas with slight as lips like grass. But so high from the Lee Cavaland, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colic, for an enemy. I've sprayed you into my eyes. PM Captain's death quivers, last rattle, last chokes. Ocala's and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp with the body grasp. Great closeness to Kappa, to Kappa, Kappa, dark after nothing reunited with his head. Sprayed you into my eyes.
Et oui, on... pardon, on est de retour sur Radio Canu, c'est bien la causerie. Et on vient de s'écouter Alt J ou J, oui J, ouais, avec Taro ou J. Alt J, Alt J, ça s'écrit avec un J, mais bon, allez, Alt J avec Taro. Et je vais passer la parole à Fab qui a quand même envie de nous causer de quelque chose.
Bah oui, il me reste exactement 6 minutes. Je vais essayer de
faire. Je pense qu'on va un peu déborder en
non,
fait.
Non, pardon, on va déborder comme d'habitude. Alors moi, en plus, c'est un sujet qui est un peu un brin sérieux, même très sérieux, et qui est en lien en fait avec le mot d'ordre de la Gay Pride du 14 juin. Donc pour ceux qui ont suivi l'émission qu'on avait fait et qu'on n'est pas des cadeaux, vous savez qu'on a reçu Edwige, présidente de la LGB, Lesbian and Gay Pride, qui nous avait donné ce mot d'ordre dans lequel, je ne vais pas le redire en entier, mais dans lequel se trouve entremêlées plusieurs revendications autour du droit du corps et nos corps nous appartiennent, dont la GPA et la prostitution. Alors je ne vais pas vous parler de la prostitution, mais je vais vous parler de la GPA ce soir. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui le plus débat et qui semble diviser assez profondément, y compris au sein de la communauté LGBT, IQ, voilà, j'aurais mis tout le monde, et aussi du côté des féministes. Alors, je vais vous dire tout de suite, ce que je vais vous faire ce soir, c'est un petit résumé de quelque chose que j'ai fait à titre personnel, parce que j'ai aussi un blog à côté de la causerie, et que j'avais fait une sorte de mini-enquête. Alors attention, je vais le dire tout de suite, c'est pas une enquête journalistique, c'est pas quelque chose, voilà, c'est juste une prise de contact avec des gens qui envisageaient ou qui ont eu recours à la GPA. Oui.
Non, je vais te laisser terminer, mais je veux dire, c'était pas sur des sites underground, quoi. C'était pas le site au fond de la cave.
Non, c'était sur des sites d'associations. Voilà. Alors moi, je suis passé, justement, j'allais dire comment j'ai eu contact avec ces gens. Je suis passé tout simplement en majorité par les réseaux sociaux et les forums spécialisés. C'est-à-dire qu'il existe des forums en France, hein, où on parle de GPA et on parle aussi de comment on se file des bonnes adresses et des choses comme ça. Et c'est pas, je trouve pas ça négatif, hein. C'est normal. C'est des forums, voilà, comme il en existe pour plein d'autres trucs. Et je vais être très clair, c'est que je n'ai jamais menti sur mes intentions, j'ai jamais menti sur qui j'étais, et il y a beaucoup de gens que j'ai eu au téléphone, donc qui ont eu carrément ma voix, mon prénom et mon nom pour ceux qui me l'ont demandé. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté sur sur la démarche, quoi. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement depuis quelques années je m'interroge sur cette notion de GPA et que j'ai l'impression que, alors GPA ça veut dire gestation pour autrui, parce que j'ai oublié de le dire, et donc la gestation pour autrui c'est le recours à une tierce personne pour porter un enfant pour un couple qui ne pourrait pas en avoir. Alors j'ai précisé tout de suite que dans l'enquête que j'ai faite, j'ai aussi bien eu des couples homosexuels que des couples hétérosexuels, parce que la GPA ne concerne pas que les homosexuels, et que donc ça porte sur environ 29 personnes. Voilà, donc c'est pas... je m'attendais pas d'ailleurs à avoir autant de réponses et pouvoir fournir un travail aussi documenté, on va dire. Mais du coup, j'ai été même du coup assez surpris, alors vous allez comprendre pourquoi, parce que malgré le nombre de réponses que j'ai eues, moi qui étais déjà pas très très chaud pour la GPA, je le dis ouvertement, ça m'a un peu encore plus refroidi, parce que j'ai eu des réactions qui m'ont un petit peu glacé le sang et qui quand même méritent d'être citées. Alors moi, ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était la vision des femmes, parce que qui dit GPA dit recours à une mère porteuse. Alors déjà, ce qui est très drôle, c'est que sur les sites spécialisés, avec les gens avec qui j'ai parlé, ils aiment pas le mot de mère porteuse, ils préfèrent tout de suite mettre le mot anglais surrogate mother, parce que voilà, ça sonne un peu mieux, ça fait bien, c'est sucré dans l'oreille. Sauf qu'en fait, c'est marrant, parce que là, il y a 3 personnes qui m'ont répondu clairement. Tu comprends, c'est plus sain, les gens comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, et ça enlève le côté négatif du français. Donc je trouve déjà au départ assez fou de se dire ouais, je vais employer un mot que les gens comprennent pas, comme ça au moins on posera pas de questions. Moi je suis désolé, mais à un moment donné, mère porteuse ou mère de substitution, c'est pas des mots négatifs, c'est juste des mots qui décrivent une réalité. Et alors voilà, alors ce qui les gêne généralement c'est le mot mère, parce que on verra plus tard que il y a une sorte de négation du rôle de mère porteuse, voilà. Et ça, c'est assez étonnant, parce que très vite, ce qui vient sur la table, c'est qu'on vous dit « Oui, mais l'ovule qui est implanté, c'est pas l'ovule de la mère. Donc, ce n'est pas de la mère porteuse, de la surrogate mother. Donc, ce n'est pas son enfant. » Vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle porte un ovule fécondé qui n'est pas issu de ses ovules à elle, le corps aurait une sorte de réaction et dirait « Ah, c'est bon chérie, t'inquiète pas, celui-là, il n'est pas de toi. » Mais en fait, moi, je leur ai dit souvent, il y a quand même un problème, parce que c'est nier le lien physiologique que la mère a avec le fœtus. Et pour être très clair, moi je suis pas psychologisant, c'est-à-dire que je ne crois pas trop à ces trucs qui auraient des trucs qui passeraient par le cordon ombilical pendant la grossesse ou des choses comme ça. Vous savez, enfin il y a des gens qui disent que les mères passent une partie de leurs souvenirs aux enfants ou des trucs comme ça. Voilà, non, j'en suis pas là. Oui. Par contre, il y a effectivement un lien physiologique. Quelqu'un qui porte un enfant, bah il le porte, donc voilà, il est là et il peut pas en faire abstraction ou négation, voilà. Et moi j'ai trouvé ça assez bizarre parce que très très vite. Il y avait une vision en fait très biologisante qui sort, qui dit qu'en gros comme c'est un ovule qui n'appartient pas à la mère, eh ben en fait bah c'est pas son enfant, donc il y a pas de problème. Mais moi ça m'a interrogé tout de suite et j'ai posé plusieurs fois la question autour de ce qu'il voyait en termes de filiation du coup. C'est-à-dire que si ce qui n'est pas du même gène, des mêmes gènes que vous ne vous appartient pas, je me suis dit mais quelle vision ils ont de l'adoption par exemple, parce qu'après tout un enfant adopté n'a pas du tout les gènes de ses parents et c'est pas, logique. Non. Ou qu'est-ce qu'il voyait par exemple de simplement du don de sperme anonyme, c'est-à-dire voilà une personne qui est un couple qui est infertile et qui fait appel à un donneur tierce, voilà. Et en fait je me suis toujours heurté à des non-réponses, c'est-à-dire que il y avait une sorte de truc qui tournait autour du pot, mais les gens n'arrivaient pas à me dire finalement comment ils arrivaient à concilier la filiation qu'ils vous trouvaient naturelle dans le cadre d'une adoption et le fait de pouvoir dire que de porter un ovule qui n'est pas de la mère porteuse, ça faisait que c'était pas son enfant. Et je crois que là il y avait vraiment quelque chose à interroger, mais je vais continuer parce que c'est pas... Alors j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que bah ils avaient pensé à l'adoption, que c'était long et que après tout ils voulaient un enfant de 2 mois qui soit de moi. Et là ça m'a vraiment fait bizarre parce qu'en fait là on sent bien que pour beaucoup de gens, la filiation, elle est avant tout génétique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une part des gènes de la personne pour que l'enfant soit vraiment de lui ou d'elle, parce que comme il y avait des couples aussi hétérosexuels. Et voilà. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que dans les couples hétérosexuels, la femme peut devenir la donatrice d'ovules. Ça peut se produire comme ça, ce qui n'est pas le cas dans les couples gays, ce qui est tout à fait logique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même quand la femme peut être donatrice de ses donneuse, c'est mieux. Et ben en fait, généralement, elles ne le font pas. Parce que, et quand je les ai interrogés, c'était parce que le parcours est très compliqué. Il faut faire des injections d'hormones, et puis c'est... Voilà. Donc en fait, aller récupérer un ovule d'une personne qui est donneuse les embêtait moins que de le faire elle-même. Je jugerai pas là-dessus parce que j'ai pas un panel assez grand pour juger sur le bien fondé, mais ça m'a surpris aussi que ça sorte dans la conversation. Je précise d'ailleurs que les conversations, on les a eues soit par chat privé, généralement, ou par téléphone, hein, je leur dis. Donc, c'est des gens que j'avais, qui avaient ma voix. C'est pas des choses, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, du coup, j'interrogeais l'idée de la filiation parce que je disais, mais voilà. Donc il y a une phrase qui m'a été dite, c'était ça va quoi elle porte, mais bon elle n'est pas obligée de se dire que c'est le sien. Alors je trouve cette phrase assez drôle quoi, elle n'est pas obligée de. Alors vous excusez, je trouve ça assez marrant. Et quand je disais je disais à la personne qui m'a dit ça, je dis mais qu'est-ce que t'entends par ça va quoi, parce que je trouvais le ça va quoi, il y avait une espèce de je rejette le truc, la question. Et la réponse elle faisait pas vraiment dans la dentelle, c'est une femme c'est fait pour porter des enfants. Donc bon, elle est faite pour ça. Voilà. Où j'ai eu aussi une femme, c'est un réceptacle, point. L'amour fera l'enfant.
Voilà. Pardon.
Juste là, ça n'engage que moi. C'est quand même hyper réac.
Oui, oui, mais.
Dans les réactions, c'est juste hyper conservateur.
Honnêtement, ça m'a beaucoup surpris.
Entre le fait que la femme n'ait que un ventre et.
Ouais,
et
un réceptacle, le mot est sorti.
C'est ça, un réceptacle. Bon. La filiation, il n'y a que le lien du sang qui est valable. Enfin, c'est quoi ces conneries, quoi.
Mais en fait, moi, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est entre pathos et pathétique, parce que c'est une vision extrêmement patriarcale et machiste, et qui était fortement répandue, en particulier dans les milieux de futurs papas au pluriel, ou papas gays, comme on dit. Voilà. Et c'était assez étonnant, parce que ça m'a un peu bouleversé, on va dire, dans le sens où, en fait, c'était une sorte de minorité qui était prête à opprimer les femmes qui le sont déjà. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Je vais préciser tout de suite parce que je vais donner sinon l'impression de faire un truc très très noir, que j'ai aussi eu des gens qui étaient très proches des mères porteuses ou des surrogate mothers, qui ont fait très attention au parcours, qui ont pris soin, on va dire, des gens. Mais je vais quand même préciser que c'est une minorité des gens que j'ai eu, et c'est aussi une des choses qui m'a le plus surpris, c'est-à-dire c'est aussi le lien qu'il y avait dans le suivi, et même dans le suivi médical, vous savez, de la chose. Donc voilà.
En fait, c'est un peu comme ils ont commandé une voiture, ils la cherchent 9 mois après. Quoi.
Ouais, c'est pas aussi cynique que ça, mais disons qu'il y a quand même un grand détachement et qu'on veut pas voir l'envers du décor. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de ne pas voir. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas aussi froid, je dirais que voilà, parce que c'est pas, je veux pas dire ça, parce que c'est pas vrai.
Ah non, mais c'est moi qui l'ai dit.
Oui, non, mais moi je le dis, je tempère tes propos parce que c'est pas aussi cynique que ça. Mais il y a vraiment une volonté de pas voir les risques. En fait, c'est ça moi qui m'a surpris, c'est-à-dire qu'une grossesse c'est à risque, quel que soit le pays où vous le faites, il y a un risque dans une grossesse, et ça on veut pas le voir, voilà, ça c'est assez étonnant. Donc après j'ai eu l'idée justement de demander comment était vue la mère porteuse pendant la grossesse. Donc en fait, c'est ce que je disais, la majorité ont une vision très distante, voire même en fait ils ne passent que par la clinique par laquelle ils sont passés, mais pas vraiment directement vers la mère porteuse. C'est-à-dire que on prend des nouvelles mais un peu de loin, c'est-à-dire est-ce que la grossesse se passe bien. Finalement on a l'impression que c'est pas vraiment est-ce que la mère et l'enfant vont bien, même si je comprends qu'on le dise pas comme ça dans ce cas-là parce qu'on estime que c'est pas l'enfant de la mère. Mais même, est-ce que la personne qui porte l'enfant que je vais élever va bien? Ça, j'ai l'impression que ça revenait pas naturellement dans la conversation. Et après, il y a des gens, par contre, qui m'ont expliqué que, ben, en fait, ils avaient un lien très fort avec la mère porteuse. Bon, je le répète, c'était une minorité, mais je trouvais leur point de vue très intéressant parce que c'était vraiment l'inverse. En fait, ils la connaissaient depuis presque un an avant qu'il y ait la gestation pour autrui. Ils la voyaient sur Skype régulièrement parce que souvent, ça se passe à l'étranger. On le rappelle, hein, les GPA, c'est interdit en France, donc on les fait dans des pays étrangers. Et ils avaient vraiment aussi fait des allers-retours sur place pour la rencontrer avant. Voilà, donc ça existe aussi. Et ces gens-là m'ont un peu, je vais dire, réconcilié avec l'humanité. Excusez-moi, je le dis comme ça parce que d'un coup, je suis tombé sur des gens, bah, qui, oui, vraiment, avaient conscience qu'il y avait une mise en danger, y compris de la personne qui allait porter l'enfant, et que c'était quand même de leur devoir aussi. C'est comme ça qu'ils l'ont dit, d'être à ses côtés bien avant et y compris après, et de suivre un peu l'évolution. Mais par contre, il y a aussi des gens, comme je le disais, qui étaient très détachés. Alors, il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit, c'est un peu son job, si tu vois ce que je veux dire. Elle porte et ensuite, ben voilà, elle porte et puis ensuite, voilà. Voilà, c'était une phrase qu'on m'a dit. Ou après, la nature, elle les prévoit pour ça. Donc bon, c'est pas comme si elle devait faire un truc qui la dépasse, quoi. Voilà, donc il y a quand même vraiment cette distanciation qui est assez froide.
Et ça, c'était en général des couples de même sexe, enfin des papas, des papagais.
C'était vraiment généralement des papagais qui parlaient comme ça, et ça sentait bien. Et d'ailleurs, ça m'emmerde de faire à la radio. Je voudrais pas croire que je servirais le vin à la manif pour tous ou des conneries comme ça, parce que c'est ce qu'on me dit en ce moment et ça me gonfle. Non, je suis en train juste de poser un débat, parce qu'il y a des gens qui disent on va poser un débat, donc je le pose. Voilà, je le pose avec
pour
des
débattre,
faits.
Il faut des arguments et des contre-arguments.
Et il y a quand même un gars qui m'a dit un truc qui m'a scié, et je peux vous dire que j'en ai parlé d'ailleurs avec quelqu'un après la Pride d'Auxerre, qui m'a dit merde, je peux pas porter un enfant, elles peuvent bien le faire pour moi. Et là, d'un seul coup, je ne savais pas quoi répondre à la personne, parce que il y avait une espèce de notion de je sais pas, de fatalité à être un homme, ok, et donc du coup bah une femme elle a bien porté un enfant, c'est normal après.
Ouais,
tout
c'est un devoir, quoi, une sorte un devoir de soumission devoir. Ouais, c'est un peu dégueu, mais
et c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit en fait que le patriarcat est très présent dans la réflexion et qu'il n'est pas aboli du tout. Alors après, oui, du coup, en grattant un peu, je suis allé voir un petit peu où se trouvaient la plupart des mères porteuses auxquelles les gens avaient eu recours, parce que là, je parle vraiment de la partie des gens qui n'étaient pas en cours, mais qui vraiment avaient eu des enfants. Et ben, généralement, elles sont dans des pays dits non occidentaux, comme on dit, donc c'est souvent l'Inde qui revient assez régulièrement, et je vais dire l'Ukraine, même si je classerais l'Ukraine dans l'Occident, c'est les deux pays qui sont revenus souvent sur la table. Et très très rapidement, ce dont on m'a parlé, c'est du fait que dans ces pays-là, en fait, la GPA est beaucoup moins chère que dans les pays dits éthiques, c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe qui pratiquent la GPA, ou les États-Unis, les USA, parce que là-bas, on est un petit peu moins regardant, donc du coup, c'était un petit peu plus pratique d'y aller. Mais il y a quand même quelqu'un qui me racontait une histoire qui, moi, m'a un peu fait bizarre. C'est que lui avait acheté des ovules en Inde et avait fait porter son enfant en Ukraine. Et quand je lui ai demandé pourquoi, c'est-à-dire que, voilà, il avait fait acheter des ovules en Inde et avait fait porter, la donneuse était en Ukraine, pardon, c'est et avait porté ses enfants en Inde. Je vais y arriver, c'était dans l'autre sens. Donc il a acheté les ovules en Ukraine et il a fait porter l'enfant en Inde. Et quand je lui ai demandé pourquoi, sa réponse, m'a un petit peu fait bizarre. Il me dit, tu sais, c'est déjà pas facile d'être un fils de PD.
Alors je tiens à noter quand même que la personne ne connaissait pas encore le sexe de son enfant parce qu'il est 7 ans en cours et il ne connaissait pas du tout le sexe. Alors j'ai préféré une insémination d'un ovocyte blanc. Voilà. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est là, on touche du doigt l'aspect le plus tragique, en fait, qu'il peut y avoir derrière, c'est carrément la sélection de l'enfant parfait ou de l'enfant qui correspond à son. Et ça, moi, ce qui m'a choqué, c'est que je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Donc, je découvrais des trucs au fur et à mesure qui m'ont surpris. Ouais.
Et puis, je trouve qu'il y a une intégration complète de la discrimination.
Oui.
Alors
oui.
Vu que ça va être un fils de PD, parce que tu sais, oh mais alors si tu veux pas que ton gamin il en subisse des trucs, t'en fais pas. Si, ou alors si c'est que t'as un problème toi-même avec
oui,
ta propre homosexualité.
Ouais.
Soigne ce mal avant quoi.
Je comprends ton énervement, mais j'essaye de pas être dans le jugement dans ce que j'ai fait. Mais c'est pas que je négative ce que tu dis, bien au contraire. Mais c'est juste que voilà, moi je tiens à dire que quand j'avais ces personnes au téléphone, je les ai senties très sincères, mais à un point où justement elle ne se rendait des fois plus compte, parce que c'est un petit peu ce que je vais dire un peu après. D'abord, il y avait un premier truc, c'était le rapport à l'argent. La plupart des gens que j'ai eus étaient des gens qui avaient les moyens, il faut pas se mentir. Et quand je dis les moyens, c'est parce qu'une GPA, une gestation pour autrui à l'étranger, ça coûte entre 25 000 et 90 000 euros selon vous la faites. Hein. Donc ça sort pas non plus du jour au lendemain.
Oui, hein, j'imagine que vers l'Inde, c'est plus 25 000. Et
c'est ça, ouais.
Et
en
Amérique, c'est un peu plus de
80
000.
J'avoue que j'ai pas fait les catalogues
oui,
de prix, mais c'est à peu près
fourchette.
Ça. Voilà.
Ouais.
Du coup, ce qui est assez drôle, c'est que le rapport à l'argent, il vient très vite dans des phrases qui sont très significatives du genre « Je vois pas pourquoi je me priverais d'être père parce que j'ai le fric pour le faire » ou « Bon, après tout, si je peux me le payer, pourquoi je ne le ferais pas ?» Et moi, ça, c'est une vision d'un cynisme absolu et surtout, ça prouve que le rapport de classe et le rapport de domination par l'argent n'est pas interrogé, y compris par les associations qui défendent la GPA. On ne met pas ça sur la table. Alors s'il y a des gens qui vont dire « Les associations, elles proposent une GPA éthique où on rembourse tous les frais pour la mère et que
les frais médicaux
et tout. Sauf que moi je tiens à rappeler qu'en France, parce que si on parle bien de la légalité en France, on a deux systèmes de santé, un public et un privé, et que je reste persuadé que même si elle était légalisée, il y aurait des GPA différentes, c'est-à-dire des qui feraient dans le privé avec des bakchiches en plus, enfin de l'argent en plus, et des qui se feraient dans le public où on aurait moins de moyens, et que de ne pas interroger ces rapports-là, ben c'est passer à côté quand même de choses qui me semblent extrêmement importantes. Et alors voilà, il y a quand même des gens qui m'ont dit des choses plus rassurantes. C'était l'idée que pour eux, par exemple, il fallait ouvrir un remboursement de la GPA pour tous et surtout l'encadrer, la laisser que dans le domaine public et d'interdire les GPA dans le privé de façon à limiter les risques d'abus. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est plutôt une position qui est courageuse, je le dis clairement, parce que c'est pas simple à porter, parce qu'il faut pas rêver. Et qu'en plus, oui, effectivement, ça résoudrait une grosse part du problème du rapport à l'argent, c'est une réalité. Mais encore une fois, ils étaient minoritaires, ces gens. Donc, j'espère que leurs voix seront un peu plus ou un peu mieux entendues. Et voilà, donc c'est là ce que je disais dans ce que j'ai écrit à l'époque, c'est que c'est à ce moment-là qu'on peut mesurer à quel point la pensée politique autour de la GPA n'existe au fond pas vraiment. En fait, on a une pensée émotionnelle, mais pas une pensée politique. Et elle est pour l'instant majoritairement inscrite dans un rapport marchand, sans réel recul ou pensée globale, excluant du coup les femmes. Parce que très souvent, les gens que j'ai eu en face de moi étaient des hommes, y compris dans les couples hétérosexuels. C'est-à-dire que les contacts que j'avais, c'était toujours les mecs. J'ai eu une seule fois une femme qui avait bien voulu me parler, mais généralement, c'était les maris. C'est-à-dire, voilà. Et même les femmes me disaient, non, mais il faut voir avec mon mari. Alors, il y avait un truc assez.
Oui,
assez bizarre,
bon, on va
là-dedans.
Pas.
Non, mais c'est très étrange parce qu'on voit que, voilà, c'est. Enfin, moi, ça m'a surpris. Et on peut quand même dire que dans la GPA, l'argent est central et souvent, elle revient dans les discussions, elle revient même très souvent comme un moyen d'accéder à l'enfant. Et sans que les gens mesurent à quel point c'est dérangeant de parler comme ça, parce que je crois qu'ils sont tellement dans l'émotionnel qu'ils se rendent pas compte qu'en fait quand on commence à parler comme ça, bah ça ouvre des portes sur des trucs pas terribles quoi. Et voilà, mais bon voilà, c'est très étrange parce que c'est ce qui laisse transparaître dans leurs propos. Et encore une fois, il y a des gens que j'ai eu au téléphone pendant quasiment une heure, donc je parle pas de gens que j'aurais eu 5 minutes et qui m'auraient balancé ça parce qu'on avait que 5 minutes pour se parler. C'est vraiment des gens avec qui j'ai pu me poser et qui finalement avaient des propos qui étaient sans se rendre compte, parce que je pense pas qu'ils étaient fondamentalement dans cette vision-là, mais qui pouvaient donner l'impression que bah, tout se vend, tout s'achète, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà. Et le pire, moi, dans l'histoire, c'est qu'après, y avait une sorte de chantage à l'enfant qui revenait assez souvent. C'est qu'en gros, on disait que l'enfant c'est du bonheur, les gens sont en manque d'enfants, donc c'est bien qu'ils aient des enfants, parce que sinon ils seront malheureux, les enfants aussi. Et donc, du coup, ça fermait la porte à toute critique. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'était un truc qu'on balançait comme ça pour fermer la porte et dire, voilà. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne peux pas parler de marchandisation. Ce sont des enfants à la clé.
C'est un peu comme les apparts.
Non, c'est pas ça. C'est que pour lui, comme on parlait d'enfants, on pouvait pas parler de marchandisation. Mais je voyais pas trop pourquoi à un moment donné.
Parce que l'enfant est sacralisé. Voilà. Et ouais, du coup, c'est bien pour fermer le débat.
Ça ferme le débat. C'est à fermer le banc. T'as pas le droit même de poser la question. Mais tout cela, c'est pour le bonheur d'un couple et des enfants à venir. Donc en gros, faut pas interroger le bonheur du couple et des enfants à venir. Voilà. Enfin, c'est un peu.
Et je veux dire que le bonheur du couple, il passe par-dessus. Tout, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, quel prix.
Je suis allé assez loin dans mes propos avec les gens. Et quand, par exemple, je leur expliquais que dans les années 60-70, on avait pris des enfants des dom-toms pour les ramener en France dans des couples qui n'avaient pas d'enfants, en particulier dans les campagnes, parce qu'il fallait pouvoir donner les terres à des enfants. C'est-à-dire qu'on mettait les gens comme ça. Et qu'à l'époque, on disait que c'était pour le bien des enfants, mais qu'on se rend compte maintenant que c'est des gens qu'on a un petit peu enlevés et tout. Je leur expliquais que pour moi, dire c'est pour le bien des enfants, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut toujours tout faire. Je leur parlais aussi de l'Arche de Zoé qui voulait enlever des enfants à leur famille pour le bien des enfants. Alors forcément, c'était provocateur. Je veux dire, je suis conscient que c'était provocateur, mais systématiquement, on me disait non, mais c'est pas pareil parce que là, on parle d'un nourrisson. Mais je vois pas la différence. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est un truc. On refusait d'interroger le comment on arrivait à avoir l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est ce que j'appelais moi le chantage à l'enfant. C'est-à-dire que dès qu'on voulait pas parler du fond de la conversation, schlac, on coupait, machin, y compris des présidents d'associations, je tiens à le préciser. Donc voilà, donc je vais conclure parce que je vois qu'il avance et qu'il est déjà écart.
Oui,
mais alors vous avez une demi-heure chacun.
Oui, ça va.
Alors, en fait, très clairement, je vais pas vous donner les sites et les noms des gens que j'ai croisés parce que je suis aussi conscient que la GPA, c'est illégal en France et qu'il risque gros, donc c'est pas le but. Je vais quand même rappeler encore une fois que j'ai aussi eu des gens en face de moi qui étaient, ce que je dirais, raisonnés dans le sens, dans leur rapport avec l'humain, à l'éthique et dans leur propre questionnement. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que dans tout ce qui tourne autour de la GPA aujourd'hui, on refuse d'y mettre du politique, on refuse de parler de rapport de classe, on refuse de parler de rapport à l'argent, on refuse de... Voilà, il y a un film qui s'appelle Naître père que j'ai vu en ligne, qui parle de deux papas qui ont fait recours à la GPA et dans lequel vous n'entendez jamais parler d'argent, de rapport à l'argent, de comment ils ont payé tout ça, de comment ils y sont allés. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir que c'est quelque chose qu'on élimine assez facilement et qu'on fait comme si ça n'existait pas alors c'est là quoi. Donc moi je veux dire même si je doute pas de la sincérité de mes interlocuteurs, même s'ils étaient minoritaires, et du fait qu'ils ne souhaitent à aucun moment user d'un droit lié à leur position dominante de mâle blanc riche, car ne nous mentons pas, une GPA ayant un coût entre 25 000 et 90 000 euros, je le redis, ce n'est pas donné à tout le monde, il m'est quand même venu un doute réel sur les motivations des mères porteuses partout dans le monde, parce que moi je fais pas tellement de distinguo, même si les gens essayent de faire distinguo, parce que moi je fais une sorte de je fais pas de distinguo parce que pour moi il y a toujours soit deux choses, soit le poids de la société, soit le poids de la religion. La société au travers du manque d'argent, donc ça devient dans des pays un moyen de survie, c'est une réalité. Et la religion, parce que qu'on le veuille ou non, quand on vous inculque que le rôle d'une femme c'est de faire des bébés et de peupler la terre, et ça aide pas forcément à avoir un jugement très serein sur l'utilisation qu'on fait de son propre corps. Et que moi, tant qu'on n'interrogera pas ces deux notions-là, j'aurais du mal à me dire qu'on se fait un vrai débat sur la GPA et sur tout ce qu'il y a autour. Voilà. Tu veux dire quelque chose?
Ouais, non. Et moi, je voulais dire, j'avais entendu, en fait, quelqu'un me parler d'une notion très intéressante, mais le droit de l'enfant. Et le droit de l'enfant, et pas le droit à l'enfant, mais le droit de l'enfant. Et ça, en fait, ça parle. C'était une émission qui était justement sur la PMA et sur la GPA. Et on abordait ça. Et parce que là, j'ai l'impression, en fait, que c'est vraiment le couple au-delà de l'enfant. Et je sais pas, moi, il y a des trucs qui me, forcément, bon, je veux dire le mot, hein, mais qui me dégoûtent un peu dans ces réponses, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment la volonté d'être parent. Puis, enfin, je suis désolée, je vais le dire comme ça doit sortir, mais ça fait chier, quoi. Enfin, je veux dire, quand on entend là les couples de pères, putain, mais merde, posez-vous des questions, quoi. Vous avez longtemps critiqué le modèle hétérosexuel et tout ça pour vous foutre dans un truc, mais dis-moi 10 000 fois pire, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, c'est, voilà. Désolée, je te rejoins
parce que pour moi, le vrai problème, c'est que comme on politise pas en fait le débat autour de la GPA, comme en réalité, on reste que dans l'émotionnel et dans ce que j'ai appelé la gang émotionnelle, et qu'en fait, on pose pas les choses clairement sur la table, et bah, du coup, on passe à côté de plein de trucs. Et par exemple, moi, j'aimerais bien qu'on commence à se poser où est la liberté réelle dans une société capitaliste. Et où est la liberté réelle dans une société purement inégalitaire? Ça me semble déjà un bon angle d'attaque. Parce qu'avant de commencer à parler de toutes les mères porteuses feraient ça parce que c'est merveilleux qu'elles veulent porter des enfants pour des gens qui peuvent pas en avoir, moi j'aimerais qu'on se pose la question aussi des rapports de classe, de domination, de voilà.
Non. Oui. Excuse-moi, non, vas-y.
Non, je voulais juste terminer parce qu'après, j'ouvrirai le débat. Je voudrais juste te dire que moi, ce qui se passe aujourd'hui autour de la Gay Pride du 14 juin m'enquiquine fortement. Alors non pas parce qu'il fallait pas ouvrir le débat ou pas mettre ça dans le mot d'ordre, parce que je veux dire très clairement, chaque association fait ce qu'elle veut et porte ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. Sauf que j'aimerais bien, et je le dis ouvertement, que la LGP aujourd'hui assume ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a ouvert un débat, enfin, elle a voulu soi-disant ouvrir un débat, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la quinzaine dans laquelle elle propose, elle oriente le débat et elle ne pose pas le débat en termes de est-ce qu'on peut poser un débat éthique autour de la GPA ? Non, elle pose le débat en disant on va vous expliquer comment on va légaliser la GPA en France. Je suis désolé, la soirée du 11 juin qui est présentée dans le livret des fiertés n'est pas une ouverture de débat. Non, c'est un truc où on vous dit venez, vous allez voir un joli film, on va vous expliquer que c'est merveilleux de devenir papa et personne ne le nie. Je pense que tout le monde est conscient que si on veut des enfants quand on en a, on est heureux, c'est normal. Mais derrière, on vous dit, on va vous expliquer comment on pourrait la légaliser en France. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le débat, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, est-ce qu'il faut avoir un débat éthique, est-ce qu'il faut se poser des vraies questions. Non, on vous dit, de toute façon, il faudra le faire, et de toute façon, c'est à faire. Donc, on vous fait pas un débat, on vous fait une projection, et après, on vous dit comment on va faire. Et c'est écrit comme ça. Je vous invite à le lire. Et je tiens aussi à dire une deuxième chose, c'est que même si je suis personnellement prêt à débattre de tout ça et que la GPA pour moi m'interroge énormément, la gestation pour autrui. Je trouve dégueulasse qu'aujourd'hui en France, on prenne les enfants dans l'autre sens en otage, c'est-à-dire qu'on refuse de donner des papiers aux enfants qui sont issus de GPA, sous prétexte qu'ils sont issus de GPA, parce que ça, c'est purement dégueulasse, parce que les gamins, ils y sont pour rien. Et qu'à un moment donné, il faut pas les laisser dans un flou juridique tel qu'ils sont aujourd'hui, parce que ça, je trouve ça juste honteux. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants apatrides, parce qu'on refuse de leur donner des papiers. Et donc, du coup, ils sont ni américains, ni ukrainiens, ni indiens, ni français. Ils sont rien. Et ça, c'est juste dans un monde où il faut être quelque chose, un vrai le problème, et ça, je veux dire très clairement que je ne suis pas du tout pour ce genre de choses non plus, même si je m'interroge sur la GPA. Voilà.
Ok.
Vas-y, j'ai fini.
Mais je sais plus trop ce que je voulais dire, mais après, enfin, je vais peut-être sûrement faire de la redite, mais c'est effectivement, c'est. Enfin, moi, j'aimerais que toutes les personnes qui ne veulent pas un débat, mais qui portent la GPA comme une cause, parce que quand on lit certains éditos, quand on lit certains articles, il ne s'agit plus de débat, il s'agit de on la légalise quand. J'aimerais que vous me donniez, je ne sais pas, des chiffres sur, je ne sais pas, une femme qui vivrait à Foch, là, vous savez, dans le 6e arrondissement là, lyonnais, qui porterait l'enfant d'un couple de, je ne sais pas, Vénitieux par exemple. Parce qu'à un moment donné, on nie complètement, c'est ce que tu disais, cette lutte de classe.
Dans ce débat-là, c'est ce qui me dérange moi personnellement le plus, c'est qu'à un moment donné, on veut pas mettre sur la table le fait qu'il y ait des rapports de classe et que du coup, ça fausse le débat et qu'il faut arrêter de se mentir, quoi. Et que, à la limite, moi, je trouverais vachement sain que quelqu'un me dise, oui, la GPA, c'est lié à l'argent, donc ceux qui auront les moyens, ils pourront le faire.
Ouais.
Ok. Mais je trouverais beaucoup plus sain. Mais sauf qu'à un moment donné, on veut pas le voir. Et ça me dérange fondamentalement. Et surtout, il y a le deuxième aspect, c'est celui de la filiation. Et je trouve qu'autour de la GPA, on est en train de remettre une norme autour de la filiation génétique, c'est-à-dire qu'il faudrait que son enfant nous ressemble automatiquement et obligatoirement pour qu'il soit le nôtre. Et ça, moi, je trouve que c'est un sacré retour en arrière. Et que il y a des gens qui font des jolis éditos et qui disent, ouais, on est l'avant-garde, machin, blablabla. Alors, mes petits amis, bon, oui, ok, non. c'était pour Hétéroclite et voilà. Mais, je tiens à dire que quand on veut être à l'avant-garde, on essaye de lire notre passé. Puis, par exemple, il y a un truc qui était écrit par le Phare, qui était vachement bien, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Puis, on lit un petit peu quelle était la vision de la famille pour le Phare. Et voilà. Et là, on pourra parler de dire tiens on a réinventé des choses parce qu'aujourd'hui si c'est juste le modèle génétiquement viable et la filiation génétique qu'on a à nous vendre, moi personnellement on n'invente pas grand chose, ça s'appelle la filiation et c'est un truc qui est dans le code du pénal aujourd'hui et qui est dans le code de la famille qu'on aimerait exploser, donc voilà, c'est peut-être plus là qu'on commence à défendre les positions proches de la manif pour tous. Voilà,
musique.
Yeah, black cats, white cats, all my self cats.
Radio Canus 102.2 et c'est toujours la causerie et il est 23h.
Mais qu'est-ce qu'il faut encore là?
Voilà. On ne peut pas rentrer.
Vous avez cru que c'était les bandes continues? Eh ben non.
Eh ben non.
Alors c'est le nouveau Die Antwoord. Die Antwoord, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un groupe sud-africain. Ça s'appelle Pitbull comme vous avez pu l'entendre, donc Pitbull Terrier en français. Et voilà, et c'est issu de leur nouvel album qui sort le 16 juin chez nous. Okay. Donc voilà, faites-vous plaisir, ça sonne bien. Alors c'est vrai que celle-là, elle sonne un petit peu comme ce qu'il faisait avant. C'est
moi,
vrai.
Je voulais pas le dire, mais, non, mais je trouve que ce titre, il est vraiment ressemblant à tout ce qui a été
ouais,
fait.
Ouais, mais il l'explique dans une interview en disant qu'en fait, c'est une continuité du triptyque autour de l'animal. Voilà. Bon, à mon avis, c'est un petit peu mon œil, c'est qu'avant, ça marchait bien, ils ont refait à peu près ce qui marchait. Mais le reste de l'album est très très bon et assez différent de ce titre-là. Voilà, je voulais le dire. Et juste rappeler, j'avais dit que je le dirais, que ce que j'ai dit sur la GPA, ça n'engage pas la causerie dans son ensemble, ça m'engage moi, même si d'autres peuvent être d'accord. Mais je dis simplement, voilà, c'était pour rappeler ça.
Je souscrirais si on te fait des ennuis.
non, mais
moi aussi.
J'ai pas peur des ennuis.
Non, mais
ce qui est un peu chiant, bon, je vais le dire vite fait, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas soulever le débat et poser des questions sans qu'on nous assimile à la manif pour tous ou carrément à des fachos.
Ouais.
Je déteste ce mot-là, mais c'est on fait partie quand même de la communauté LGBTQ I machin. J'espère que j'ai pas oublié de lettres. P. Voilà. Mais on a quand même le droit de soulever le débat, quoi, sans être assimilé à d'autres personnes. Merci. Ben, c'est tout.
Le message est passé.
Non, mais t'as raison, parce qu'effectivement.
Ouais. Surtout à tout autre sujet, je vais passer une brève, parce que je l'avais oublié.
Ouais.
Oui.
Et je l'ai. Donc, en fait, le 9 à 20h, il y a quelqu'un de l'Anarchist Black Cross anglaise qui va passer à Lyon, expliquer un petit peu ce qui se passe autour des militants véganes qui ont été enfermés en Angleterre. Donc si vous vous souvenez, Louli en parlait régulièrement dans l'émission. Et donc du coup, il va venir un petit peu expliquer comment on peut les soutenir et comment on peut... leur apporter aussi de l'aide financière parce qu'en fait ils ont des soucis pour payer les avocats. Donc voilà, alors le seul truc c'est que ça se passera dans un lieu qui pour l'instant est tenu secret pour des raisons évidentes, parce que voilà, ce sont des gens qui peuvent être extradés par exemple, et puis qu'on fait souvent ça dans des squats, donc voilà. Mais pour avoir l'adresse, il faut écrire à mais il y a un mail pour ça.
D'accord.
À Capartalo, alors ça s'écrit C-A-P-A-R-T-A L-E-A-U @riseup.net. Alors riseup c'est R-I-S-E-U-P.net. Voilà. Et sinon vous allez sur Rebellion, vous avez des infos. Je trouve ça super intéressant que justement on puisse avoir des gens qui expliquent un petit peu ce qui se passe, parce que je vous rappelle que les militants de la cause animale sont aujourd'hui classés dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, en deuxième position des terroristes les plus dangereux, juste après Al-Qaïda. Voilà, et que du coup, comme ils sont classés comme ça, ils sont sous le coup des mêmes peines que les terroristes d'Al-Qaïda. Donc voilà,
c'est génial.
C'était juste pour rappeler ça. Donc voilà. C'était ma brève.
Et puis la brève, qui n'est pas forcément une brève, c'est que samedi prochain, on sera le 14 juin, si je ne me trompe, et qu'il y aura la marche des fiertés, qui s'appelle aussi Gay Pride en anglais. Moi, j'aime bien le français. Je trouve ça intéressant de ramener les mots de fierté. Et que, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit et tout ce qui est porté par la LGP, donc la Lesbian and Gay Pride de Lyon, ça n'empêchera pas, me concernant, et je pense que ceux qui sont autour de la table aussi, d'être présents, parce qu'on continue de se faire fracasser la gueule quand on est PD, lesbienne ou trans, qu'on continue à avoir des emmerdes de paplard quand on est trans. Le reste, le reste, c'est la LGP, c'est pas la Gay Pride pour moi, me concernant. Voilà. En tout cas, c'est rendez-vous à 14h près du lycée du Parc.
Ouais, le lycée du Parc, c'est vers l'entrée des serres, il me semble.
Et on offrera des pins qui n'existent pas à toute personne qui porte un t-shirt. J'aime la causerie, je suis à la Gay Pride. Ou je suis à la marche des fiertés. Non, mais je dis ça parce que je rappelle.
Ça n'engage que toi, là, par contre.
Je rappelle qu'on offre un pins qui n'existe pas. Donc je pense qu'on s'engage.
Effectivement.
Pas trop.
Et si tu viens, on aura de merveilleux costumes et des tenues très affriées.
Comment, ok, donc t'as choisi ma, t'as choisi mon costume, en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Youpi, cuir et latex.
et juste avant qu'on s'en aille, je vais caler le titre, ça va vachement mieux se marcher, voilà. Et je voulais juste rappeler quelque chose parce que on parle beaucoup en ce moment d'un truc qui va se passer, qui est la Coupe du Monde. Donc je vous rappelle que le meilleur moyen de faire en sorte que ce truc-là n'existe plus, c'est de pas regarder les matchs et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'audience. Voilà, tout simplement. Et puis je voudrais juste que vous renseigniez un tout petit peu sur ce qui se passe au Brésil en ce moment, sur le nombre de morts qui ont été faits dans ce qu'on appelait l'expurgation des favelas, c'est-à-dire
la pacification que l'État utilisait. Hein. C'est le mot qui utilise.
Donc voilà. Et je fais pas souvent ça, mais je vais le dire. Sur Arte Plus 7, il y a un excellent reportage qui s'appelle Brésil 50 degrés, ouais. Et qui justement parle très très bien de tout ce qui se passe là-bas, et ça prend une petite heure de sa vie.
Et vous vous rendrez compte qu'en fait, les riches, les pauvres, c'est partout.
Ils n'ont pas la même vision d'ailleurs.
C'est ça, ils n'ont pas la même vision. Souvent les bourgeois aiment bien le fascisme et les pauvres le subissent.
Il y a un passage sur la dictature militaire qu'il y avait eu au Brésil qui est magnifique, où il y a une dame qui dit « Oui, mais au moins avant, il y avait plus de respect, c'était pas si mal que ça, il faisait pas autant de mal. » Et puis vous avez en face quelqu'un qui était dans les favelas qui vous expliquait que il y avait 10 personnes qui disparaissaient chaque jour et qu'on savait pas trop où elles allaient.
Et vous parle des tortures qu'ils ont subies.
Et on voit vraiment les deux points de vue, c'est vraiment vraiment bien.
Et à quel prix cette Coupe du Monde se fera, comme souvent d'ailleurs.
Et Jean-Yves, est-ce que tu nous présenterais pas le dernier titre
Youpi, parce que ça va se finir, les gens, vous allez pouvoir vous coucher, tout ça. Nous aussi,
demain,
d'ailleurs,
c'est férié pour la majorité des gens.
La majorité.
D'ailleurs, on pense peut-être à ceux qui taffent. Parce que,
ça, c'est dégueulasse.
Ouais. Alors, le dernier titre, c'est l'artiste s'appelle Zone, S-O-H-N, et le titre sera The Will. Et on vous souhaite quoi?
Une bonne semaine, des bisous aux infirmiers parce qu'ils travaillent sûrement demain.
Merci à tous ceux qui travaillent pour notre bien-être à tous. Je pense pas aux flics quand je dis
ça. On est d'accord.
On est d'accord.
Je pense aux pompiers, aux infirmiers, par exemple. Juste te dire qu'on n'est pas là la semaine prochaine non plus.
Bien vu.
Voilà, et que donc on vous retrouvera le 22 à 22h.
Normalement avec de la musique et un groupe.
Ouais, si tout se passe comme prévu.
Ou pas. On sait voilà. pas.
Non, il y a un groupe avant le... Parce qu'il y aura oui. deux groupes deux semaines de suite.
Ouais, voilà.
Enfin bon,
on ne fabulons pas. On verra.
Et puis, ben, ami auditeur qui est en train d'appeler Canu, si c'est pour nous insulter, arrête.
Arrête, c'est 23h30, bon, prends ton Valium et va dormir.
Ouais. Alors je fais un coucou à Nolwenn parce que je sais qu'elle vous écoute ce soir.
Ah ouais, nous aussi on lui fait un coucou à Nolwenn.
Bah
oui,
bah alors on continue. Et ben Nolwenn, sœur Caquette, tout ça.
Voilà. Salut les petits oiseaux des îles.
Bisous. Bonne semaine. Les petits chats.
Bonne semaine. Bon courage.
Des armes, des propres, tu si t'as bien vu la...